Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En cette période de Noël, comme les rois mages portant la myrrhe et l'encens, vous allez être nombreux à offrir des parfums. Parfums dont Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui l'histoire sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors je n'ai pas le droit de faire de publicité à l'antenne.
C'est vrai.
Pour une marque de parfum, mais ce que j'ai le droit de dire quand même, Julia, c'est que vous nous amenez chaque jour dans ce studio de bien agréables fragrances.
Alors, ravi que cela vous plaise, merci beaucoup. Mais nous allons peut-être revenir au sujet du jour. Vous souhaitez nous parler des parfums.
Alors c'est vrai, le mot parfum, on va devenir sérieux si vous voulez, tant pis. Ça vient du latin perfumare, tant il est vrai qu'autrefois les substances odorantes étaient destinées à être brûlées, comme justement la myrrhe et l'encens dont vous parliez, Julia. Il y a très longtemps, en Perse et à Babylone, on faisait déjà usage de la cannelle, du cinnamome et du nard de Troène. Mais les parfums dont nous allons parler aujourd'hui sont plus proches de nous. Ce que je vous propose en effet, c'est de revenir sur la saga des eaux embaumées, depuis le parfum royal des Romains et la médiévale eau de la reine de Hongrie, jusqu'au plus mythique des créations modernes, fougère royale, rose jacqueminot, iris gris. Fermez les yeux, respirez, laissez-vous transporter.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Marcel Proust, encore lui, dans sa recherche du temps perdu, a placé l'odorat au premier rang des moyens de stimuler la mémoire. Pour son narrateur, le village de Combray existe d'abord par le souvenir olfactif d'une petite pièce de la maison familiale qui sentait l'iris, ou bien par l'odeur des aubépines dans une allée du côté de Méséglise. Quelques années plus tard, dans un pavillon d'aisance des Champs-Élysées, il lui suffit de percevoir à nouveau cette odeur fraîche de renfermé qu'il avait humée dans la maison de Tante Léonie pour se trouver envahi d'un plaisir, je cite, non pas de la même espèce que les autres, lesquels nous laissent plus instables, incapables de les retenir, de les posséder, mais au contraire d'un plaisir consistant auquel je pouvais m'étayer, délicieux, paisible, riche d'une vérité durable, inexpliquée et certaine. Or, son plaisir est d'autant plus vif que le parfum s'est évaporé dans l'oubli. C'est pourquoi, explique-t-il, la meilleure part de notre mémoire est hors de nous, dans un souffle plus vieux, dans l'odeur de renfermé d'une chambre ou dans l'odeur d'une première flambée, partout où nous retrouvons de nous-mêmes ce que notre intelligence n'ayant pas l'emploi de cela avait dédaigné, la dernière réserve du passé, la meilleure, celle qui, quand toutes nos larmes semblent taries, sait nous faire pleurer encore. L'empire, exercé sur l'être humain par ce sens très primal, très immédiat qu'est l'odorat, n'a jamais été mise en scène avec autant de force que dans le roman « Le parfum » de Patrick Susskind, le héros, ou je devrais peut-être dire l'anti-héros, fanatique de cette histoire, Jean-Baptiste Grenouille, va pousser jusqu'au meurtre sa passion des odeurs corporelles. Il ira en effet jusqu'à tuer une jeune fille afin de prélever ses arômes. Par enfleurage à froid, il la renifla intégralement de la tête aux orteils, écrit Susskind. Il collecta les derniers restes de son parfum sur son menton, dans son nombril et dans les plis de ses bras repliés. L'écrivain allemand a situé cette intrigue, et c'est pas un hasard, dans la France de Louis XV. C'est sous ce règne que les pommades, les onguents, les crèmes, les baumes qu'on utilisait depuis le Moyen-Âge sont remplacés par toutes sortes de solutions alcoolisées. L'usage de l'alcool comme diluant des parfums était courant depuis qu'au XIVe siècle, Arnaud de Villeneuve, dont je vous parlais l'autre jour, avait appris des Arabes le procédé de la distillation. Cependant, sa diffusion dans le public ne sera vraiment acquise que bien plus tard, justement vers ce milieu du XVIIIe siècle. C'est toute la saga de l'eau de Cologne, depuis son invention à la fin du XVIIe par Giovanni Paolo Feminis, jusqu'à sa diffusion mondiale par les nombreux descendants réels ou supposés de Jean-Marie Farina, installé lui-même à Paris en 1806. À l'origine, l'eau de Cologne était moins un produit de beauté qu'une lotion de santé. C'est comme ça, notamment, que la concevait Napoléon lorsqu'il s'en aspergeait plusieurs fois par jour, laver le corps, l'entretenir, le tonifier. Telles étaient les missions assignées à cet ancêtre de nos eaux de toilette. Au siècle suivant, dans « À rebours », le roman décadentiste de Huysmans, le héros, Désé Sainte, s'amuse des odeurs reconnaissables du passé. Je cite Huysmans. le style parfumé Louis XIII, composé des éléments chers à cette époque, de la poudre d'iris, du musc, de la civette, de l'eau de myrte, déjà désignée sous le nom d'eau des anges, était à peine suffisant pour exprimer les grâces cavalières, les teintes un peu crues du temps. Plus tard, avec la myrrhe, l'oliban, les senteurs mystiques puissantes et austères, l'allure pompeuse du grand siècle, les artifices redondants de l'art oratoire, le style large, soutenu, nombreux de Bossuet et des maîtres de la chaire fut presque impossible. Plus tard encore, les grâces fatiguées et savantes de la société française sous Louis XV trouvèrent plus facilement leur interprète dans la frangipane et la maréchale qui donnèrent en quelque sorte la synthèse même de l'époque. Eh bien, nous verrons tout à l'heure ce que c'était que cette frangipane et que cette maréchale.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et nous sommes précisément sur Europe 1, au cœur de l'histoire des parfums.
Alors disons-le tout de suite, la France n'avait pas attendu la cour parfumée de Louis XV pour élaborer déjà les parfums les plus raffinés. Dès le haut Moyen-Âge, les Francs et les Lombards recevaient de Bagdad, de Damas, de Cordoue des aromates et des onguents, d'autant plus coûteux qu'ils venaient de loin. Charlemagne lui-même recevait des présents de ce genre, offerts par le calife Haroun al-Rachid. Néanmoins, ce sont les croisés qui ont ramené pour de bon en Europe le goût des parfums exotiques. L'ambre était serti dans des boîtelettes d'ivoire, de cristal ou d'argent, on appelait ça les barillets, ou dans ces fiasques d'or qui empruntaient leur forme aux pommes de la légende, on appelait ça des pommandres. Puissants seigneurs et gentes dames avaient pour habitude de garnir d'ambre leurs chapelets et leurs images pieuses. Ils faisaient aussi grand cas des oiselets de Chypre. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était une pâte au styrax et au labdanum qui était moulée pour donner la forme de petits oiseaux qu'on faisait brûler dans des cagettes ciselées pour embaumer l'atmosphère. Tout cet imaginaire olfactif, on le retrouve en Europe, et spécialement en France, dans un artisanat de luxe qui, bientôt, de grâce à Levallois, va devenir une véritable industrie, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Les pionniers de cette industrie du parfum règnent littéralement sur la Belle Époque. L'un d'entre eux, le plus connu peut-être, est Louis Toussaint Pivert. Pivert, c'est le créateur de Trèfle Incarnat, par exemple, en 1896, un parfum aux notes incroyablement fraîche. François Coty s'impose à la même époque. Il suffit de respirer sa célèbre rose Jacqueminot qui date de 1903 pour comprendre qu'il lui suffit, c'est en tout cas ce que prétend la légende, de feindre la maladresse et d'en briser un flacon au rayon parfum du bon marché pour que les clientes en soient tombées folles dans l'heure. Tant de rondeur, tant de grâce dans un effluve aussi puissant. Avec les parfums de rosine, Paul Poiret, vous savez, le couturier, sera le premier de ces couturiers à se piquer de cosmétiques. Lui va plutôt tabler sur l'éclat, sur la gaieté, sur la fraîcheur d'esprit. Son Arlequinade en 1924 est un vrai ravissement. Et puis il y a un autre couturier, Jacques Fatt, qui va se montrer révolutionnaire. Alors là, c'est un peu plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, avec les tonalités tellement spécifique, un peu estompé, très grave de son iris gris. Ça, c'est donc en 47. Il y a sans doute quelque chose d'injuste, évidemment, à ne citer que ces créations-là parmi tant d'autres. Nous allons, dans la dernière partie de l'émission, essayer de rendre hommage à un certain nombre des plus grands parfums qui ont fait la légende de l'industrie française du parfum. On peut dire que tous les parfumeurs emblématiques sont représentés dans une institution qui est unique. Quand je dis unique, c'est qu'elle est unique au monde, dans ce conservatoire d'odeurs qu'est l'Osmothèque de Versailles. Nous allons y venir dans un instant. N'oublions pas que la parfumerie moderne doit tout à l'invention des corps odorants de synthèse à la fin du XIXe siècle. C'est en 1882 qu'Houbigan crée Fougère Royale à partir d'un produit synthétisé par Perquin, la Courmarine, et puis Aimé Guerlain, pour concocter Jiki, en 1889, va utiliser la vanilline synthétisée par Reimer. Plus tard encore, en 1921, Ernest Beau, vous savez, va instiller dans le très célèbre Chanel numéro 5 une bonne quantité d'aldéhyde. C'est ce qui va consacrer l'utilisation des corps artificiels, ce qui ne veut pas dire qu'on l'ait pour autant renoncé aux fragrances naturelles. Par exemple, Jean Patou, avec le bouquet floral de Joy en 1929, va commander à Almeras le parfum le plus cher du monde. De nos jours, la plupart des gens associent une part de leur identité à leur parfum favori. Voyez par exemple le héros du roman de Percy Kemp, Musk, Monsieur M, qui est un homme élégant et qui n'envisage pas de survivre à l'abandon du musc naturel dans la fabrication de son eau de toilette. Je cite Percy Kemp, « Tant que l'image de son odeur avait été stable, permanente, renouvelable à souhait, il n'avait vu ni sa calvitie, ni ses pattes d'oie, ni ses mains veineuses, ni ses doigts noueux, ni son dos voûté. Les autres non plus, pensait-il, pris qu'ils étaient par l'image de son odeur et par sa forme olfactive. » Cette forme olfactive, c'est une notion inventée par Edmond Runiska, hein, le génial créateur d'eau sauvage chez Dior, qui, dans l'esthétique en question, a posé la notion de forme olfactive en soulignant le caractère, comment pourrait-on dire, quasiment matériel, en tout cas dense, reconnaissable des fragrances, en tout cas pour un nez bien formé. Tout ça veut dire que, et sans aller pour autant se fondre dans le volume de leur parfum, la plupart des utilisateurs se meuvent plus librement quand ils peuvent se sentir protégés par le halo familier de leur fragrance, de leur parfum, quand ils peuvent tout simplement se sentir chez eux dans ce qui sent bon.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Franck qui nous raconte aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire des parfums.
L'idée de conserver dans un lieu sûr la trace de tous les parfums connus à ce jour, cette idée vraiment très brillante, salutaire, a germé vers la fin des années 70 dans l'esprit de plusieurs passionnés, et parmi eux, Jean Kerléau, qui était un nez réputé. Ainsi devait naître l'Osmothèque, cette institution dont je vous disais à l'instant qu'elle était unique au monde. Il faut vous dire qu'en effet, nulle part ailleurs, il n'est permis comme ça de venir humer, sentir comme on le fait avec Versailles, des milliers de senteurs d'aujourd'hui, d'hier et même d'avant-hier, des senteurs parmi lesquels figurent de véritables mythes immémoriaux comme le parfum royal des Romains ou cette eau de la reine de Hongrie dont je parlais tout à l'heure et qui était tellement répandue au Moyen-Âge et à la Renaissance. Les bonnes fées de ce conservatoire inespéré qui se trouve donc dans une rue un petit peu excentrée de Versailles, ont été jusqu'à reconstituer, à partir d'une formule trouvée par hasard dans un meuble, l'eau de Cologne qu'on aurait fabriquée à Sainte-Hélène pour l'empereur en exil. Vous imaginez, pour les amoureux d'histoire de notre genre, à quel point tout ça peut être émouvant. Plus près de nous, c'est la mémoire de centaines de créations évanouies dans les brumes du passé que l'Osmothèque remet à portée de nos narines. Alors, vous savez comment on procède, hein, on vous imprègne le bout de petites languettes cartonnées qui sont aux parfumeurs ce que le dé à coudre est à la couturière. On appelle ça des touches à sentir, ou tout bonnement des mouillettes. Et toutes ces fragrances qu'on croyait perdues à jamais viennent vous cueillir au coin du bois comme un beau matin de 1920, si c'est le Narcisse bleu de Meury, ou bien 1922 pour la nuit de Noël de Caron, qui est tout à fait de saison là en ce moment. Le sensuel cuir de Russie de Chanel, ça c'est 1924, ou le crêpe de Chine de Millau, 1925. On se dit, entre parenthèses, que les années folles étaient d'une richesse extraordinaire pour la création en matière de parfumerie. Bonjour, Patricia de Nicolaï.
Bonjour, merci de votre invitation.
C'est vous qui êtes à la tête de cette Osmothèque de Versailles. Vous avez conscience de diriger une institution tout à fait rare et tout à fait unique.
Tout à fait, je vous remercie. En effet, depuis 4 ans maintenant, j'ai repris la présidence à la suite de Monsieur Jean Kerléau, qui est toujours actif auprès de notre équipe. Mmh. Il a un rôle important, il est notre mémoire. Elle est importante puisque nous refaisons des parfums anciens et lorsqu'il n'y en a plus dans notre cave, il faut repeser les formules trop tôt disparues.
Alors c'est ça, il y a plusieurs types de parfums chez vous. D'abord, chaque maison est plus ou moins invitée à vous fournir un échantillon, c'est plus qu'un échantillon, même une jolie réserve de chaque création.
L'idée, c'est d'effectivement conserver tout ce qui sort aujourd'hui sur le marché, car ce qui sort aujourd'hui est un produit qui sera oublié dès demain, c'est quelquefois.
C'est donc une bibliothèque d'odeurs que vous constituez.
J'irai même
dire.
Plus loin. Nous allons même jusqu'à être des archivistes.
Archivistes, d'ailleurs, oui, bien
nous
sûr.
Nous sommes vraiment les archivistes de notre profession et nous représentons le patrimoine de l'industrie de la parfumerie qui a vraiment et véritablement commencé au moment de l'apparition des produits de synthèse à la moitié du 19e siècle.
Je parlais par exemple de Nuit de Noël, on est au début des années 20. Vous n'avez plus, j'imagine, de parfums datant de l'époque. C'est la formule que vous avez reconstituée.
Voilà, nous avons la. Alors, en l'occurrence, pour certaines sociétés qui existent toujours, elles ont leur formule chez elles ou elles peuvent nous la confier. Nous avons une convention qui permet de garder de façon complètement exclusive et non ouverte ces formules de parfum. Mais lorsque les maisons existent toujours, il est normal qu'elles les conservent. Et lorsque les maisons ont disparu, c'est là que nous faisons des enquêtes et nous essayons d'approcher les héritiers de ces sociétés-là. Et dans beaucoup de cas, nous avons pu archiver des formules anciennes que nous avons dans un coffre et que nous allons chercher lorsqu'il faut les refaire ces parfums.
Combien de créations de la parfumerie possédez-vous dans cette osmothèque ?
Aujourd'hui, nous arrivons à 2700 parfums, dont 400 disparus. Et sur ces 400 disparus, nous avons 170 formules.
Ouais,
L'idée, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire de conserver les formules plus récentes et de persuader la profession de nous confier leurs formules. Nous sommes pas propriétaires.
C'est vraiment une œuvre de salubrité publique,
voilà,
il faut le dire.
Nous ne sommes pas propriétaires de ces formules, il est bien clair. Nous en sommes que dépositaires et nous avons encore une fois une convention bien stricte qui permet de les garder de façon très officielle, mais en même temps de pouvoir les garder confidentiellement.
Ce qui veut dire qu'à partir de ces formules, vous avez un laboratoire qui est capable de reconstituer les
Ah oui,
les
à l'osmothèque, vous avez la cave des parfums et vous avez aussi une cave qui est une cave des matières premières, où nous conservons des produits très anciens.
Dans des conditions très spécifiques, il faut le dire.
Les trois ennemis du parfum, c'est la lumière, la température et l'oxygène. Donc nous essayons de combattre ces trois ennemis, la lumière étant la première, et c'est pourtant incroyable, les gens ne comprennent pas toujours que c'est la lumière qui abîme le parfum en premier, donc il est conservé dans une pièce occulte, et puis nous avons effectivement une température ambiante de 12 degrés et nous immergeons sur chaque flacon un gaz inerte qui se couche à la surface du flacon et qui évite l'oxydation du produit. Évidemment, encore une fois, un parfum n'est pas qu'on ne peut pas garder de façon infinie comme un tableau ou une sculpture.
Alors sur inscription, vous recevez le public qui veut venir se former en quelque sorte, mais vous avez aussi bien sûr des professionnels du métier, des gens du métier qui viennent pour travailler à l'osmothèque.
Tout à fait. Nous avons deux casquettes. On nous demande, c'est une association loi 1901, donc nous sommes ouverts au public et c'est une chose que nous faisons de plus en plus largement. Nous faisons plus de 150 conférences à Versailles. Dans nos locaux, nous sommes logés sur le campus de l'ISIPCA, l'école de parfumerie qui est à Versailles. Et ensuite, nous faisons aussi beaucoup de conférences et de formations auprès des professionnels qui viennent soit se ressourcer, soit se former tout simplement, parce que la profession est large et il y a beaucoup de gens qui opèrent dans le parfum.
Pour les auditeurs d'Europe 1 qui seraient intéressés, il suffit d'aller sur notre site internet, on va vous donner toutes les coordonnées. Alors, il y a encore une autre mission de cette osmothèque, c'est de reconstituer des parfums, alors là, pour certains très anciens, qui sont perdus, que vous reconstituez d'après des témoignages, d'après tout ce qu'on peut en savoir.
Nous nous obligeons à travailler d'après des formules de parfums. Parce que très vite, on peut dériver et aller
vers... Par exemple, l'eau de la reine de Hongrie, par exemple. Comment
oui,
la reconstituez-vous ?
Mais l'eau de la reine de Hongrie, on a des livres qui nous expliquent exactement comment elle était faite à l'origine. Et l'eau de la reine de Hongrie n'est pas un produit très difficile à faire puisque c'est une distillation d'une matière première. Ce n'est pas une formule comme par exemple la cologne que vous avez mentionnée tout à l'heure, qui est en fait la première vraiment formule un peu sophistiquée que nous conservons en termes de parfum.
Nous avons la chance de recevoir Elisabeth de Feydeau, historienne spécialiste des parfums et qui vient de publier un merveilleux ouvrage dont nous allons parler beaucoup plus en détail. Cela s'appelle « Les parfums, histoire, anthologie, dictionnaire » dans la célèbre collection bouquins chez Robert Laffont. Elisabeth de Feydeau, vous fréquentez l'osmothèque vous-même ?
Ah oui, beaucoup. Au moment de ma thèse, j'y allais presque tous les jours en fait, et je trouve que c'est un endroit absolument formidable parce que en plus de cette bibliothèque des parfums, il y a aussi une bibliothèque tout court avec des ouvrages que même la Bibliothèque nationale ne possède pas. Donc c'est quand même une richesse fabuleuse pour ce sujet.
C'est vraiment le saint des saints.
Voilà.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Arômes, eaux, effluves, émanations, essence, fragrance, senteur, vous l'avez compris, vous saurez tout sur les parfums aujourd'hui sur Europe 1.
Voilà un de ces ouvrages importants, comme j'aime à vous en présenter régulièrement, Les parfums d'Elisabeth de Feydeau, histoire, anthologie, dictionnaire. Il y a tout dans ce livre. Il y a des extraits de textes de parfumeurs et de grands créateurs. Il y a une sorte de glossaire, un dictionnaire même, disons-le, très complet, très détaillé. Et puis, une évocation de ce qu'est la fabrication même d'un parfum. J'ai gardé le meilleur pour la fin, en ce qui me concerne, c'est-à-dire également un historique des parfums. Vous nous racontez toute l'histoire, toute la saga extraordinaire de ce qui est devenu une industrie, mais qui pendant très longtemps n'était qu'un tout petit artisanat, Elisabeth de Feydeau.
Oui, un tout petit artisanat, mais tout de même qui comptait beaucoup dans la vie des hommes, puisqu'on se rend compte que finalement, en racontant l'histoire du parfum, on déroule l'histoire de l'humanité, on parcourt les civilisations avec toujours un dénominateur commun, c'est qu'on y va par l'intime. C'est vraiment le cœur, en fait, de la vie des êtres que l'on
Vous expliquez ça, d'ailleurs, d'un point de vue tout à fait naturel, biologique, ce sens cela est un sens premier, disons-le.
Tout à fait, qui relie... Alors oui, un sens premier chez les premiers hommes, puisque l'odorat signalait en fait le danger, et était aussi très important dans la reproduction. Alors aujourd'hui, bien sûr, on est pourvu...
Il y a quelque chose d'animal quand même dans l'odorat.
Tout à fait, c'est aussi pour ça que la philosophie pendant des siècles, n'a pas reconnu l'odorat comme un sens majeur, beaucoup trop proche de l'instinct et de l'animalité. Platon disait bien qu'il fallait se méfier des parfums, parce que ça pouvait conduire les hommes dans tous les déboires et toutes les orgies. Donc c'était un sens très important. D'ailleurs, aujourd'hui, le vocabulaire courant retient certaines expressions. Quand on dit « je peux pas le sentir » ou « je le sens pas », ça nous ramène à cette origine très très ancienne du rôle de l'odorat dans la vie des êtres.
Vous avez, bien sûr, vous brossez le tableau de cette création des parfums à travers toutes sortes de civilisations. L'Orient s'y entend particulièrement, il faut le dire. Ce qui m'intéresse, moi, évidemment, c'est plutôt notre Europe, notre vieille Europe. Pendant longtemps, la fabrication des parfums était le privilège d'une profession bien circonscrite. Bien particulière.
Tout à fait. C'était la communauté des Gantiers Parfumeurs, donc qui a été fondée en 1190 dans le sud de la France, entre Montpellier et Grasse. Et cette profession était donc régie par des règles très strictes, qui étaient le principe des corporations. Donc on ne devenait pas parfumeur comme ça. On était généralement héritier.
Pourquoi Gantier et parfumeur ?
Alors, je dirais que l'origine en France des parfums est double. Elle est d'une part les Gantiers, donc tous les déjà les métiers de la mode finalement, puisque plus tard on va retrouver les couturiers parfumeurs, mais dès l'origine le parfum est lié à cette notion de la mode. Les Gantiers parce que les Gantiers français avaient appris la méthode orientale qui était de purger les peaux dans des bains de senteurs, et ça dès le Moyen-Âge, et bien plus tard ça sera Catherine de Médicis qui apportera la mode des gants parfumés. Donc ensuite on enflerait les peaux avec les parfums du choix de la personne qui les commandait. Et puis l'autre origine des parfums, c'est les apothicaires. Donc le parfum doit être soigné, on porte le parfum non pas pour séduire, ça c'est très condamnable, mais au contraire pour se protéger des maladies, des épidémies. Vous avez fait allusion tout à l'heure aux pommandeurs, aux oiselets de Chypre. C'était des objets beaux, mais qui étaient surtout utiles puisque ça permettait d'éloigner les miasmes.
On parle à travers toute l'Europe, dès le début du XVIIIe siècle, de cour parfumée. D'où vient ce surnom ?
Alors, c'était à l'époque de Louis XV, on appelait la cour parfumée, parce qu'il fallait changer de parfum chaque jour pour paraître devant le roi. Et avant Louis XV, Louis XIV, par le biais de son ministre Colbert, avait déjà introduit les parfums comme un élément indispensable de la parure. Colbert, vous savez, qui a été un ministre d'État très très avisé, avait enquêté sur les savoir-faire français. Et parmi tous ces savoir-faire, la parfumerie s'en tirait plutôt bien. Donc il avait nanti la communauté des Gantiers Parfumeurs de beaucoup de privilèges, mais en échange, il lui fallait créer et exceller. Et elle excellait tellement bien que finalement, elle s'exportait dans toutes les cours européennes. Et la cour de Versailles était réputée donc célèbre pour ses bonnes et ses mauvaises odeurs aussi, mais pour tous ces parfums, ces phares, parce
et
que là aussi le phare était codifié.
Pour cette fameuse odeur de frangipane dont je parlais tout à l'heure, oui. De quoi s'agit-il ?
Alors en fait, c'est plutôt une recette italienne hein, qui nous est arrivée donc avec Catherine de Médicis. Mmh. Et j'ai toujours en résumant, mais peut-être que Patricia va me contredire, que finalement la frangipane, d'accord, la frangipane, c'est un peu le 4 quarts des parfumeurs. C'est-à-dire qu'il fallait que les matières qu'on choisissait, essentiellement jasmin, soient toujours en proportion égale. Et ça a aussi donné la fameuse préparation culinaire à base d'amandes. Donc il y avait amandes, jasmin et ensuite on mettait ce qu'on voulait, mais il fallait que ça soit dans des proportions équivalentes.
La frangipane, la maréchale, elles avaient un pouvoir masquant sur les mauvaises odeurs, Patricia de Nicolaï.
Ah oui, c'était important de masquer ces mauvaises odeurs car Elisabeth parle très bien de l'histoire du parfum. Et il faut savoir qu'à un moment donné, il ne fallait pas se laver. L'eau était véhicule de microbes.
Oui. On s'en protégeait. On faisait la toilette sèche, comme on
disait. Donc on faisait la toilette sèche. Et comme ces produits étaient basés sous des formes alcooliques avec de l'alcool, l'alcool étant un antiseptique, il est compréhensible que finalement on faisait des toilettes sèches à base d'eau de toilette. Et le terme eau de toilette vient sans doute de là.
Ça vient de là.
Ça vient
C'était
de
les
là.
Eaux pour la toilette. Et exactement. Ensuite, c'est devenu au XXe siècle les eaux de toilette.
Eh bien justement, on en arrive très vite au XXe siècle et à des créations qui nous parlent plus que la frangipane ou la maréchale.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et pour parler des parfums, on vous retrouve Franck avec vos invités aujourd'hui. Elisabeth de Fedeau, docteur en histoire, elle travaille en tant qu'expert auprès des grandes maisons de parfumerie de luxe. Et puis Patricia de Nicolaï, parfumeur, créateur, présidente de l'Osmothèque de Versailles.
Je ne veux pas faire de publicité, Elisabeth de Fedeau, mais quand on parle de certaines grandes maisons, je pense à Guerlain par exemple, ça nous ramène au début, enfin en tout cas dans le premier tiers du 19e siècle. C'est le début des institutions.
Oui, alors en effet, Pierre-François Pascal Guerlain, le fondateur, va créer sa société en 1828. Et là, vous voyez, à la différence de tous les parfumeurs d'Ancien Régime, il est un nouveau venu dans le monde du parfum. Il crée ex nihilo cette maison qui va devenir une très très grande maison
Mais
de parfum.
Il fallait, pour que ce genre de maison puisse naître, que les corporations justement disparaissent. Je pense que la révolution était passée
par là, elle a aboli le système des corporations et celle des parfumeurs a été abolie en 1791, créant ainsi la libre entreprise.
Et, voilà.
Et c'est comme ça qu'au 19e, on voit fleurir un très grand nombre de maisons parisiennes de parfums. Donc.
Alors, sans entrer trop dans le détail, il faut que vous nous disiez vraiment à très grands traits quelles sont les grandes techniques en vigueur dans la parfumerie. Et notamment, qu'est-ce que c'est que cet enfleurage à froid, par exemple, dont on parlait tout à l'heure ?
Alors l'enfleurage est un petit peu plus une technique un peu plus ancienne puisque c'est au XVIIIe siècle en fait que l'on met au point cette technique qui est une spécialité de Grasse qui d'ailleurs même va faire la fortune de Grasse. Il y avait des fleurs qui résistaient à la distillation, c'est-à-dire qu'on appelait ça les fleurs muettes. Elles gardaient leur flegme olfactif, elles ne lâchaient rien, elles n'étaient pas du tout généreuses avec le parfumeur et donc ils avaient mis au point cette technique qui alors c'est un peu compliqué. Comme ça expliqué, mais on se servait de tiam, qui étaient comme des caisses de bois avec une toile tendue, et on mettait de la graisse. Alors au XVIIIe, c'était la graisse animale, donc on imagine que ça devait laisser quand même pas mal de résidus olfactifs, et puis on mettait des fleurs, et puis on faisait comme des sandwichs, si vous voulez, on empilait comme ça toutes ces préparations, et puis quand la graisse, le tissu avec la graisse s'était gorgé en fait des matières odorantes, le parfumeur le pressait, comme
voilà.
On le voit très bien d'ailleurs dans le livre de Suskind, le parfum, et on en tirait donc une concrète qui permettait ensuite d'être traitée à l'alcool et qui donnait donc les parfums de ces fleurs qu'on n'arrivait pas à extraire.
Quels sont les grands créateurs qui, au fil du 19e siècle, vont émerger? Quels sont les grands noms auxquels on a tendance à se référer quand on étudie l'histoire des parfums modernes cette fois?
Oui. Alors au 19e siècle, il y a deux grands pionniers. C'est tout d'abord Paul Parquet qui va être le parfumeur de Houbigan qui crée donc Fougère Royale en 1882. Et puis bien sûr Aimé Guerlain avec son Jiki en 1889. Donc deux parfums très très modernistes. D'une part parce qu'ils ne sont plus la reproduction, la photographie si vous voulez de ce qui existe dans la nature, mais parce qu'ils deviennent une véritable création qui associe donc matière première naturelle et ces fameuses notes artificielles qui étaient tellement critiquée par les contemporains de leur époque. On parle de cette terrible chimie, de ces produits artificiels abominables. On va même utiliser des mots encore plus difficiles parce que comme ces produits en général sont issus de la chimie organique allemande, et entre 1870 et la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, voilà,
on
n'est pas très germanophile. Oui. Donc en général, on accuse en fait les produits de synthèse de tous les maux, y compris même de stérilité féminine chez la femme. Il y a une étude très sérieuse, plusieurs études même très sérieuses qui sont conservées toujours à la faculté de médecine de Paris, et on les explique que si les femmes utilisent ces produits, elles vont devenir stériles. Bon bah finalement, on voit qu'il y a eu encore pas mal de générations qui se sont succédées. Donc on accablait les produits de synthèse de tous les maux.
Nous avons vu qu'autrefois, c'était les gantiers qui avaient le privilège, le monopole des parfums. Peu à peu, ce sont les couturiers qui s'intéressent à cette création.
Et là, il y a un lien, finalement. C'est encore le métier de la mode. Et c'est ce qui va faire, d'ailleurs, la spécificité du parfum français. C'est cette notion du sillage. Et le sillage, vous savez, c'est cette goutte que l'on laisse sur un ourlet, sur un gant. C'est cette goutte de parfum qui laisse une trace et qui crée une sorte de froufrou olfactif.
Et qui nous précède, parfois.
Voilà, qui nous précède. Et nous suit.
Qui annonce.
Voilà. C'est ce que disait Marcel Rochas d'ailleurs. Il faut qu'une femme, il faut qu'on sente une femme avant son arrivée.
Avant qu'elle arrive.
Voilà.
Ah, c'est magnifique.
Une sorte d'aboyeur olfactif.
C'est ça, c'est très beau.
Et donc là, c'est en effet, c'est les métiers de la mode qui sont vraiment dans l'empreinte française du parfum. Et à partir dès la fin du 19e siècle, on le voit.
J'ai cité Paul Poiret. Il faut citer bien sûr Mademoiselle Chanel. Enfin, il y a là des personnalités qui sont en même temps des génies du marketing. Il faut bien le dire.
Ça, Mademoiselle Chanel a été un génie avant l'heure. Je crois qu'elle a fait le meilleur marketing qu'on puisse imaginer.
Elle n'était pas complètement seule.
Voilà, oui, elle a été aidée. Mais quand on reprend tout ce qu'elle a voulu pour le numéro 5, à commencer par cette phrase qui était un pavé dans la mare à l'époque, quand elle dit « je veux un parfum de femme à odeur de femme », c'est socialement extrêmement scandaleux. Si vous voulez, la femme ne doit pas sentir la femme. Elle doit sentir la modestie, la discrétion, mais certainement pas la femme. Donc il y a déjà ça. Ensuite, elle veut « je ne veux pas de nom, je veux un chiffre ». Je veux un parfum qui soit terriblement cher pour qu'aucun parfumeur n'ose me copier. Enfin, elle va tout inventer et elle va, avec Ernest Beau, créer aujourd'hui un mythe de la parfumerie.
Est-ce que l'homme doit sentir l'homme ?
Ah, mais oui. Alors, l'homme doit sentir comme Henri IV, par exemple, qui aimait bien ne pas se laver et qui en demandait autant à Gabriel Destrée. Oui, l'homme, il faut le rassurer, hein, quand il utilise du parfum, il faut quand même,
Il arrive plus tard dans la parfumerie, quand même. Enfin,
oui.
C'est-à-dire
non. Que... Oui et non. Oui, oui et non. Parce que l'homme s'est toujours énormément parfumé. Les gladiateurs, regardez, utilisaient
mais
beaucoup de parfum.
Mais il fallait pas le dire.
Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, chez les Grecs et les Romains, l'homme utilisait du parfum pour accroître son pouvoir, sa force. Et donc, ensuite, on a eu toutes ces générations d'hommes sous la Renaissance, la Régence, le XVIIIe siècle, donc de libertins qui étaient très musqués, qui utilisaient beaucoup d'ambre gris, et donc qui étaient extrêmement raffinés dans leurs mœurs olfactives. Et puis ensuite, au XIXe siècle, l'homme, évidemment, est devenu beaucoup plus sérieux. Il avait une fonction de paterfamilias. Et il n'était pas là du tout pour séduire, mais pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc il sentait surtout l'eau de Cologne, les lotions aftershave, si vous voulez, l'odeur du barbier. Donc la parfumerie s'est vraiment intéressée aux hommes beaucoup plus tardivement. Le premier parfum qui parle de beauté et de séduction, c'est pour un homme de Caron en 1934. Où là, on a l'évocation d'une forme de séduction masculine. Mais pour les hommes, il faut... rassurer et leur parler force, immortalité, virilité. Et là, on est davantage dans un discours qui est accepté par l'homme.
Tout sur les parfums, leur incroyable histoire, une anthologie des grands textes et puis un dictionnaire plus qu'inspiré. C'est l'ouvrage qu'Elisabeth de Feydeau nous propose dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Merci beaucoup Elisabeth de Feydeau.
Merci Franck.
Et merci à vous Patricia de Nicolaï d'être venue nous parler de cette osmothèque de Versailles, endroit extraordinaire. Je pense que vous aurez bientôt quelques visiteurs venant de la part d'Europe 1. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons jouer à des jeux d'enfants, mais pas seulement, puisque vous savez qu'on peut jouer en général de 7 à 77 ans.
Voir
si
plus.
Vous avez 3 mois et demi, que vous écoutez la radio, restez avec nous, ça peut vous intéresser. Si vous en avez 95 aussi, ça peut vous intéresser. Allez, on parle jouets, on attend vos meilleures idées cadeaux, vos meilleures idées jouets. C'est toujours le 39-21 pour nous appeler, 34 centimes d'euros la minute, ou Europe 1.fr.
Merci Elena. Alors à titre exceptionnel, Julia, demain nous serons là, 24 décembre, et pour cette veille de Noël, j'ai demandé à Jean-Christian Petit-Fils de venir nous parler de Jésus. Il m'a semblé que c'était de saison.
Vous avez raison, le rendez-vous est pris. À demain, cher Franck.